6h44, en temps universel, RFI Matin continue et un œil tout de suite sur les grands titres de l'info ce matin.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une, la surprise et le choc en Roumanie, il n'était crédité que de 5% des intentions de vote. Le candidat pro-russe et d'extrême droite, Calin Georgescu, arrive finalement en première position du premier tour de la présidentielle. 22,6% des voix selon des résultats encore provisoires. L'actuel premier ministre pro-européen obtiendrait 19,55%. Autre présidentielle en Uruguay, c'est le candidat de l'opposition de gauche, Yamandu Orsi, qui a remporté dimanche le second tour de l'élection face au candidat de la droite, Alvaro Delgado. Et puis à la une également, une cinquième et dernière session de négociation, sommet mondial aujourd'hui à Busan en Corée du Sud pour parvenir à un traité contraignant sur la limitation de l'usage du plastique. 460 millions de tonnes sont produites chaque année et 22 millions finissent chaque année là aussi dans la nature. Et bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
La revue de la presse africaine avec vous et à la une, la COP29, immense déception pour l'Afrique.
Jacques Assaoré Konan, le ministre ivoirien de l'Environnement, lançait cet avertissement il y a 2 jours dans les colonnes de Jeune Afrique, juste avant la fin de cette COP29. Il est nécessaire d'indexer les financements sur les besoins réels des pays en développement et vulnérables au changement climatique. On attend toujours des pays développés qu'ils renflouent les caisses. Il faudrait mettre en place des sources de financement durables, c'est urgent. Si rien n'est fait, le PIB de la Côte d'Ivoire va chuter de 15% d'ici à 2050 et plus d'1,5 million de personnes vont basculer dans la pauvreté.
Eh bien, rien n'a été fait à Bakou, ou presque.
Oui, cette conférence mondiale sur le climat s'est achevée entre colère et déception pour l'Afrique, s'exclame le Monde Afrique, alors que les négociations ont joué les prolongations tard dans la nuit de samedi à dimanche. C'est avec le sentiment de se faire tordre le bras que les délégués africains, encore présents dans la capitale azerbaïdjanaise, ont accepté un accord qui ne répond en rien à leurs principales attentes. Le financement promis pour 2035 est trop faible, trop tardif et trop ambigu. L'Afrique quitte Bakou avec réalisme et résignation, car la COP29 se termine bien en deçà de nos attentes. Quand l'Afrique perd, le monde perd, a déploré Ali Mohamed, l'envoyé spécial du président kényan William Ruto et porte-parole du groupe Afrique. En effet, relève encore le Monde Afrique, les 300 milliards de dollars par an arrachés aux pays industriels sont en effet très loin des 1300 milliards proposés par le continent pour pouvoir financer les besoins de la transition énergétique et l'adaptation aux conséquences de plus en plus lourdes du dérèglement climatique.
La grande déception soupire le pays à Ouagadougou.
Pouvait-il en être autrement ? On est tenté de répondre à cette interrogation par les négatives. Et pour cause, les COP depuis 1995 se succèdent et se ressemblent. En tout cas, poursuit le quotidien ouagalais, les quelques 300 milliards promis restent bons à prendre, tout en maintenant la pression afin d'obtenir de meilleurs résultats. Mais reste encore toute une bataille pour son opérationnalisation. Et cela est une autre paire de manches dans la mesure où les promesses antérieures tenues par les mêmes pays du Nord n'ont jamais été honorées. Du reste, il faut même craindre que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis n'engage cette superpuissance mondiale sur le chemin d'un désengagement dans le financement des projets en lien avec le climat. En effet, renchérit de son côté aujourd'hui 300 milliards de dollars pour les pays en développement à la COP29. Encore une promesse qui n'engage personne.
En fait, les négociateurs ont été face à un dilemme jusqu'au dernier moment.
Cet accord ne sert pas nos intérêts, mais c'était cela ou rien, explique une représentante des sociétés civiles du continent interrogée par le Monde Afrique. Nous avons été, dit-elle, face à un chantage dans lequel les Européens en particulier ont brandi l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ou encore la montée des partis d'extrême droite au pouvoir en Europe pour nous faire comprendre que nous avions davantage à perdre qu'à gagner en refusant l'accord. Encore une fois, l'Afrique et les pays en développement se sont retrouvés au pied du mur.
Alors autant nous débrouiller nous-mêmes, avance le Djeli en Guinée.
Face au phénomène du changement climatique, l'Afrique doit agir avec un autre paradigme. Celui-ci implique que les Africains, mus par une légitime déception du fait du comportement injuste des pays développés, ne cèdent pas pour autant à une attitude tout aussi irresponsable que suicidaire, qui tendrait à faire comme le changement climatique n'existait pas. Tout au contraire, estime donc le Djeli, les dirigeants du continent doivent faire montre de volontarisme et de responsabilité face au péril climatique et qu'en conséquence, il mobilise toutes les énergies internes en vue d'élaborer des stratégies pour y faire face. Ce mécanisme, s'il est bâti de manière à ce que les acteurs sociaux et économiques locaux se sentent librement concernés, ce mécanisme permettra de pallier cette image quelque peu avilissante d'un continent condamné à implorer la compassion du monde. C'est en cela, conclut le journal, que consiste la souveraineté, la vraie, et non pas celle qui ne sert que de slogan à certains aujourd'hui.
Frédéric Couteau pour la Revue de Presse, merci beaucoup, à tout à l'heure. 7h49 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, faut-il changer la constitution, comme l'a proposé le mois dernier Félix Tshisekedi, estimant que le texte actuel n'était pas adapté aux réalités congolaises, le chef de l'État cherche-t-il à briguer un troisième mandat en 2028, comme l'affirme l'opposition qu'il accuse de coup d'État constitutionnel? Notre grand invité Afrique est ce matin un défenseur de la constitution en vigueur qu'il connaît bien et pour cause. Il était le président de l'Assemblée nationale au moment de son adoption en 2006. Olivier Kamitatou est aujourd'hui porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. De passage à Paris, il nous répond au micro de Christophe Boisbouvier.
Olivier Kamitatou, bonjour.
Bonjour.
La constitution de 2006 est obsolète et fait la part belle aux belligérants, dit Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas en effet des articles à revoir dans la loi fondamentale ?
Eh bien, d'abord, ce n'est pas une constitution des belligérants. C'est une constitution qui a été adoptée par un référendum constitutionnel organisé le 18 et 19 décembre 2005, promulgué en février 2006. Donc 85% des Congolais ont dit oui à cette constitution. C'est bien la constitution de tous les Congolais, élaborée par des constitutionnalistes. À cette époque-là, d'ailleurs, j'étais président de l'Assemblée nationale et j'ai animé les débats qui ont abouti à l'adoption du projet de constitution. Non, tout cela, en réalité, la volonté de Félix Tshisekedi, c'est de déverrouiller un article qui le contraint en 2028 à quitter le pouvoir. Il veut garder le pouvoir et il trouve tous les arguments les plus grotesques. En fait, Félix Tshisekedi veut une constitution qui soit un prêt-à-porter pour sa dérive dictatoriale. Avec des mandats illimités, une présidence à vie, c'est ça qu'il cherche réellement.
Mais le président a déclaré la semaine dernière « Ce que j'ai dit il y a quelques jours à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir. » C'est clair ça, non ?
Non, ce n'est pas clair du tout. Rien n'est clair dans la démarche de Félix Tshisekedi. C'est un homme qui manipule l'opinion. Il y a quelques années encore, Félix Tshisekedi était à nos côtés pour défendre la Constitution. Lui-même a déclaré qu'il faudrait marcher sur son corps pour que cette Constitution puisse être changé. Moïse Katumbi a amené Félix Tshisekedi au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères, à la Maison-Blanche, pour ensemble se battre pour le maintien de toutes les dispositions de la Constitution. On a conduit des jeunes Congolais à manifester. Certains ont été tués, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, ont laissé leur vie sur ce combat mené par toute l'opposition, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, quelques années après, par amnésie, il crache sur la mémoire de ses victimes, de ses martyrs, simplement pour une volonté tout à fait personnelle de conserver le pouvoir au-delà des mandats constitutionnels. Manifestement, Félix Tshisekedi aura partie difficile face au peuple congolais qui est extrêmement jaloux des dispositions de cette constitution et particulièrement celle ayant trait à l'alternance du pouvoir après le mandat.
Alors la semaine dernière, vous, les principaux dirigeants de l'opposition, vous avez créé un front commun, ce sont les forces politiques et sociales contre la dictature et le changement de constitution. Mais l'an dernier, vous n'avez pas été capable de désigner un candidat commun contre le président sortant. Est-ce que vos divisions ne font pas le jeu du pouvoir ?
On ne peut pas comparer la situation de l'an dernier à celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette coalition n'est pas une coalition pour la conquête du pouvoir. C'est une coalition pour sauver la nation d'un grand péril.
À l'Assemblée nationale, vous êtes ultra minoritaire. Vous n'avez que quelques dizaines de députés face à l'Union sacrée qui en compte plus de 400. Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Eh bien, il faut d'abord réveiller les consciences. Et nous brandissons très bien aujourd'hui ce que tous les Congolais connaissent, l'article 64 de la Constitution qui dispose que nous avons le devoir de nous lever contre toute personne qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer en violation de la Constitution. C'est un coup d'État constitutionnel auquel se prépare par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous devons défendre un bien commun qui est notre constitution.
Oui, mais l'Union sacrée, c'est quand même un bloc très fort avec de nombreux leaders politiques, pas seulement Félix Tshisekedi, mais aussi Vital Kamerhe, Modeste Baati, Jean-Pierre Bemba.
Eh bien, certains de ces leaders ont un silence de cathédrale assourdissant aujourd'hui, parce qu'ils ont été eux-mêmes les artisans de ce texte de 2006. Donc, je peux parler de Vital Kamerhe ou de Baati et de Jean-Pierre Bemba. Ils ont connu tout ce processus d'élaboration d'un texte qui a abouti effectivement à une apothéose heureuse de 85% des Congolais qui ont dit oui.
Donc vous espérez que ces leaders politiques qui sont actuellement dans l'Union sacrée fassent défection ?
Non, nous espérons simplement qu'ils se rappellent les valeurs que porte ce texte et ce qu'il a contribué à l'unité de ce pays. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, pour les besoins d'un seul homme qui continue à piller le pays, à mettre en coupe réglée le Katanga, qui mène un train de vie insolent. Nous avons un héritage à protéger, c'est celui d'un pays qui est uni. Nous ne pouvons pas le sacrifier pour les caprices de Félix Tshisekedi.
Olivier Kamitatou, merci.
Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale et porte-parole de Moïse Katumbi en RDC. Entretien signé Christophe Boisbouvier. Bientôt 7h en temps universel sur RFI. L'info continue dans moins de 5 minutes. Mais d'abord, votre sourire du matin avec vous, Maman. On parle aujourd'hui du droit de grève. Il est très bien encadré au Gondwana.
Oui, la très très démocratique République est un pays pensé et dessiné par un logiciel sophistiqué. Ce n'est pas un pays où il y a ce n'est pas un pays n'importe quoi. Il y a des règles à respecter et des règles pour taper sur les doigts des gens qui ne respectent pas ces règles-là. Il y a des droits et de devoirs, dont le droit de devoir se tenir et marcher droit. Bref, c'est un pays carré avec les quatre coins égaux et des coins qui piquent et font très mal. Par exemple, n'importe qui ne peut pas se lever un beau matin et dire qu'il va faire grève. Attends, il y a d'abord une condition sine qua non à remplir pour faire grève, la majorité. Eh oui, d'abord, majorité au sens majorité présidentielle. Bah oui, vous ne pouvez pas décider de faire une grève qui va embêter la majorité présidentielle, c'est-à-dire par extension, son excellence président fondateur. Pour faire grève, il faut que la majorité présidentielle soit d'accord, parce que il y a des grèves qu'on peut autoriser et des grèves que c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Bah, par exemple, les enseignants, ils ont l'autorisation de faire grève quand ils veulent, eux. Bah oui, président fondateur n'en a cure. Attends, voici des gens qui ne rapportent pas un franc aux caisses de l'État, au contraire même. Voici donc des gens qu'on entend tout le temps, partout, des gens qui ont des vacances à gauche et à droite et qui ne sont jamais contents. Attends, ils n'ont qu'à faire grève, eux et leurs élèves étudiants. Notre leader bien-aimé rigole. Dès que ça l'énerve, bah, il envoie s'en fout la mort des autres et ses gars mettre de l'ordre dans tout ça, à coups de matraque et de gaz lacrymogène dans les amphithéâtres et les dortoirs. Ensuite, il y a l'autre notion de majorité, l'âge. Vous le savez tous, en très très démocratique république, c'est président fondateur qui décide qui est majeur ou mineur. Et donc, naturellement, comme partout dans le monde, tu n'as pas le droit de faire grève si tu es mineur. C'est normal, logique et sans appel. Et ce n'est pas parce que vous pensez souffrir de l'inflation, de la cherté de la vie, etc., que vous pouvez, comme ça, vous mettre en grève en prenant en otage tout un pays et surtout toute une majorité. Majorité présidentielle et par extension président fondateur. Vous êtes mineur, donc avant toute chose, vous devez demander l'autorisation à votre tuteur, c'est-à-dire votre direction, même si elle vous doit beaucoup d'argent, hein, c'est-à-dire 13e et 14e mois, primes, etc. Votre direction, c'est votre tuteur légal. Vous ne pouvez pas faire grève tout seul, même si vous avez des leaders syndicalistes. D'ailleurs, ceux-là, là, on va les poursuivre pour détournement de mineurs. Voilà, en résumé, pas de grève parce que t'es mineur, mon ami, et surtout parce que ça embête notre leader bien-aimé et la majorité présidentielle. Allez, au boulot! À demain.
À demain, Maman, et merci. Allez, oui, au boulot! Le journal est à suivre sur RFI. À tout de suite sur la radio du monde. Il est bientôt 7h en temps universel.
Bonjour, c'est Maman. Le prix RFI Talent du Rire fête ses 10 ans. 10 ans que nous récompensons chaque année le meilleur humoriste d'Afrique. Mon ami, tu veux être le numéro 10 de notre équipe continentale du Rire? Tu veux recevoir ton prix le 23 février 2025 sur la prestigieuse scène du Festival Abidjan Capitale du Rire, qui lui aussi fête ses 10 ans. Inscris-toi et envoie tes meilleurs textes et vidéos sur le site abidjancapitaledurire.com. Hey, bonne chance, hein!
Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi les mathématiques sont universelles?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Regard croisé de deux mathématiciennes engagées dans la transmission et le partage de leur science, mais surtout du plaisir et même de la joie de chercher et de comprendre, comme le disait Galilée, pourquoi le monde est écrit en langage mathématique.
Autour de la question, avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI. Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile. Que du bonheur en son et RFI Talent présente Candy Guira. Découvrez le remix du titre Talent Loge de la voix d'or du Faso avec le DJ français Hors d'œuvre. Disponible sur